Je vais donc passer tout de suite la parole, dans un instant, s'il le veut bien, à Alain Lamassoure. Mais auparavant, je voudrais appeler aux honneurs de la séance Aurora Elinkey, qui est parmi nous et qui nous a rejoint. Elle est Executive Director de l'Observatoire de l'Histoire. Et elle est actuellement directrice aussi de la participation démocratique et directrice générale de la démocratie et de la dignité humaine au Conseil de l'Europe. Permettez-moi de présenter maintenant en quelques mots Alain Lamassoure, qui n'a pas besoin, à vrai dire, de présentation, tellement il a été présent à la fois en France et en Europe constamment sur une période très longue. Je dois à la vérité de dire qu'il y a un conflit d'intérêts entre nous parce que nous sommes amis depuis 45 ans. Et nous nous sommes retrouvés pendant 3 ans, l'un et l'autre, au secrétariat général de la présidence de la République. Après cette période, donc, qui a été une période de 3 ans, Alain s'est engagé en politique. Il a été député des Pyrénées-Atlantiques, de la 5e circonscription, pendant de longues années, de 86 à 93. Il y a fait un petit retour, d'ailleurs, en 95. Il a été député européen exceptionnellement longuement, ce qui lui a donné une connaissance intime de l'Europe, de ses institutions, entrevue sous l'angle à la fois, bien entendu, de la perception française et de la perception d'une très grande institution européenne qui est appelée à avoir encore un plus grand avenir. Donc il a été député au Parlement européen de 89 à 93 et de 99 à 2019. Mais il n'a pas simplement une expérience parlementaire à la fois nationale et européenne. Il a aussi été, et ceci est évidemment très important dans sa perception du monde, ministre des Affaires européennes de 93 à 95 et ministre du Budget de 95 à 97. Et il a poursuivi pendant toute sa vie cette dévotion, si je puis dire, au bien public, à la représentation de nos concitoyens, à la fois français et européens, et aussi, bien entendu, à la promotion de l'Europe, entrevue sous des angles multiples. Il a été conseiller, je crois qu'on peut le dire, de tous les gouvernements français, présidents de la République successifs, sur les questions européennes, conseiller très écouté et parfois décisif, si je puis me le permettre. Mais j'arrête là ma présentation et je donne la parole à Alain Lamassoure, qui a bien voulu accepter de nous rejoindre aujourd'hui.
Je suis très honoré de votre invitation et très touché, cher Jean-Claude. Je me présente à vous avec une humilité qui n'est pas feinte et avec un bonheur que vous me permettrez de ne pas cacher. L'humilité sied à un artisan qui s'est rêvé bâtisseur et qui se retrouve aujourd'hui devant un aréopage constitué des meilleurs ingénieurs, architectes, analystes, praticien et théoricien de la chose publique contemporaine. Beaucoup d'entre vous ont une expérience de l'action supérieure à la mienne, et les autres disposent du recul et de la méthode scientifique qui leur permet de comprendre mieux que nous, en tout cas mieux que moi, les événements auxquels nous avons participé. Cela me donne aussi le bonheur de revoir des visages amis, d'anciens partenaires et complices, et d'avoir l'occasion d'échanger avec certains de ceux qui ont inspiré le meilleur de nos politiques publiques pendant toute ma vie active. Par gouvernance européenne, puisque cette année est consacrée à la gouvernance par votre académie, j'entends le système de gouvernance qui s'est mis en place, traité après traité, dans l'Union européenne et autour d'elle. un modèle dont nous ne cacherons ni les limites ni les défauts, mais qui s'est révélé un étonnant exemple de gouvernance de la paix. Ce modèle mérite votre attention, me semble-t-il, par un paradoxe qui est un défi pour les politistes. Car aucun pays n'a joué un rôle plus important que le nôtre dans la construction politique et juridique de l'Union, et pourtant, il est difficile d'imaginer des modèles de gouvernance plus différents quand on compare l'hymne à l'horizontalité de la pratique communautaire et l'asymptote de la verticalité absolue de notre pouvoir républicain. La paix, nous l'avons assurée en Europe par le projet. Dans son œuvre inachevée, Citadelle, Saint-Exupéry écrit une phrase qui mériterait, à mon sens, d'être gravée sur tout le fronton de nos assemblées parlementaires. Je cite. Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères, mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. En effet, l'effort commun rassemble des acteurs responsables, alors que ce qu'on appelle maintenant le « quoi qu'il en coûte » divise des sujets aigris et ingrats. Le projet européen, puisque projet il y a, comprend trois volets, la méthode Monnet, le fondement du droit et les institutions. Ce que j'appelle la méthode Monnet s'est inspiré de cette pédagogie de la construction. C'est au fond une valse à trois temps. Premier temps, un petit pas, tellement modeste qu'il est impossible à refuser par quiconque. À l'époque, c'était la mise en commun du charbon, fer et acier, c'est-à-dire la matière première des épées comme celle des charrues, pour reconstruire l'industrie de la paix après l'apocalypse de la guerre. On s'y est engagé à l'époque à contre-cœur, avec toutes les méfiances réciproques du moment, mais on s'y est engagé. Deuxième temps, un calendrier à respecter coûte que coûte, car inscrit dans le traité. Le traité de Rome fixait l'entrée en vigueur de la politique agricole commune au 1962. La pendule a été arrêtée au 31 décembre jusqu'au 14 janvier 62. Le passe-passe horloger permettant de tenir l'échéance. Toutes les dates suivantes furent tenues. 1er janvier 93 pour l'espace unique. 1er janvier 99, puis 2002 pour l'Union monétaire, 1er juillet 2004 pour le grand élargissement à l'Est. Troisième temps de la valse, l'engrenage vertueux. Car après le premier pas réussi, la confiance commence à succéder à la méfiance. La réussite inattendue donne l'envie de faire un second pas, et d'ailleurs, elle le rend nécessaire. Les avantages du grand marché conduisent à étendre la libre circulation à tous les produits industriels et agricoles et naturellement aux services, aux capitaux, aux personnes. Et là, deux pans suivants sont inéluctables. D'abord, un changement de méthode, le passage du diplomatique au politique, puisqu'il s'agit non plus de négocier des marchandises, mais d'adopter des normes, des lois. Et puis, un nouvel horizon, la monnaie unique, pour rendre égales les conditions de concurrence. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Raymond Devos qui disait « Mon pied gauche avance, je suis en déséquilibre, le pied droit s'avance un peu plus loin, le gauche le rattrape, et moi, comme un idiot, je marche. » C'est l'impression qu'ont souvent eu les opinions publiques et leurs dirigeants. Ils étaient emportés par un engrenage dont on ne savait plus toujours qui le souhaitait, mais qui paraissait irrésistible. Ça agaçait beaucoup, mais finalement, cet engrenage a été bienvenu. Deuxième volet, le fondement du droit. Et c'est même un triple fondement. Il y a le socle, le préambule de la Charte des Nations Unies par lequel les États membres s'engagent à respecter mutuellement leur indépendance et leur souveraineté et à recourir à la négociation pour régler tous leurs différends. Et puis, il faut citer aussi la Convention européenne des droits de l'homme et plus récemment la Charte des droits fondamentaux de la personne humaine. Au-dessus de ce socle, ce que j'appellerais le règlement intérieur de copropriété entre nous, constitué par les traités successifs, c'est le cadre global, au fond, depuis, en gros, le traité dit Acte unique de 85, l'Europe a une constitution sans le nom, puisque le nom a été refusé par le peuple français. Enfin, troisième couche, la fonction principale de l'Union qui est de faire du droit. Et quand je dis fonction principale, je serais tenté de dire fonction presque unique. Un droit qui est doté d'une sorte, alors je vais exagérer un peu, je m'en excuse auprès des éminents juristes ici présents, un droit qui est doté d'une sorte de pouvoir légitimant. Parce qu'en réglant tous les problèmes par le droit, l'Union démontre chaque jour l'inanité du recours à la force. Claudel disait « La preuve du pain, c'est qu'il nourrit ». Alors on comprend qu'une telle démarche ait pu séduire, par exemple, Joachim Habermas, le théoricien du patriotisme constitutionnel, dont l'Allemagne avait besoin pour se reconstruire comme nation après la catastrophe. Nous sommes ici devant un concept comparable, certes sans patriotisme et sans vraie constitution, mais avec beaucoup, beaucoup de droits qui a, à mes yeux, un effet légitimant. D'où l'importance de la Cour de justice de l'Union européenne, sa jurisprudence a joué un rôle clé pour anticiper les pas suivants de la démarche, et d'où aussi l'épreuve de l'adoption par les pays candidats à l'entrée dans l'Union de tout le droit communautaire existant. Ils doivent avoir ingéré tout le droit antérieur à leur arrivée pour avoir le droit de rejoindre le club. Troisième volet, les institutions, et naturellement, la citation s'impose ici de Jean Monnet, « Rien ne se crée sans les hommes, sans les personnes, et rien ne dure sans les institutions. » Je cite Jean Monnet, je vais le taquiner un petit peu, parce que son premier modèle, la haute autorité, qui était fondée sur la supranationalité, était une erreur. C'était un modèle technocratique qui avait le dernier mot, une sorte de saint-simonisme revu par Jacques Maritain. C'était impossible à étendre à d'autres sujets que le charbon et l'acier, évidemment inapplicable à la défense. La CED a été un échec mérité. C'est là que le pragmatisme belge de Paul-Henri Spaak a fait merveille. Le traité de Rome, c'est une invention du Benelux. Après une demi-douzaine de nouveaux traités qui ont suivi Rome, le traité de Lisbonne actuel a mis en place un système de décision fédérale sans le nom. Combinant la double légitimité, légitimité des citoyens, légitimité des États qui constituent l'Union, l'efficacité et le contrôle caractéristique de l'État de droit. C'est un fédéralisme parlementaire, à l'allemande ou à la canadienne, pas à l'américaine, couronné par ce que j'appelle le Mont Olympe, c'est-à-dire les réunions au sommet du Conseil européen. Avec le temps, la Commission européenne, qui avait été conçue comme un corps virginal de sages au-dessus des contingences politiques, est devenu un vrai exécutif politique de l'Union, l'exécutif de l'Union. Madame von der Leyen qualifie même ce rôle de géopolitique. Mais si le dessin ressemble à une fédération, les différences avec une fédération classique sont immenses, et c'est pourquoi, personnellement, je n'applique pas le mot à l'Union. Différence dans le processus historique. L'Europe a commencé avec la mise en commun de l'agriculture, bien avant l'union monétaire, et on attend encore une véritable politique étrangère commune. De même, le Parlement européen a obtenu le pouvoir législatif avant de pouvoir lever l'impôt et de pouvoir déclarer la guerre, au rebours de toute l'histoire parlementaire. Différence aussi dans les moyens financiers du centre, comparés à ceux des composantes. Le budget central de l'Union est ridiculement faible, 1% du PIB, alors que sa capacité normative est énorme. C'est Jean-Marc Sauvé, dont prédécesseurs et successeurs imminents sont ici présents, qui évaluaient environ 70%, évidemment, ordre de grandeur, la proportion des normes de droit qui chaque année s'appliquent aujourd'hui en France et qui ne sont plus décidées à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais décidées à Bruxelles, soit dans le cadre de l'Union européenne, soit par coordination des politiques nationales dans le cadre de ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination. En revanche, les États membres monopolisent l'information du citoyen, alors que, dans les pays fédéraux, les médias fédéraux prévalent largement, que ce soit en Allemagne comme aux États-Unis. Autrement dit, l'Union européenne est un géant normatif, un nain budgétaire, un trou noir médiatique et finalement un ovni institutionnel. Ça, ce que je viens de dire, c'est bien connu, j'enfonce des portes ouvertes. Apportons un petit complément. L'outillage de la paix, ou ce que j'appelle les découvertes du voyage, puisque cette construction, qui n'est pas achevée, est un voyage en commun, une aventure humaine. Car chemin faisant, au cours du chantier, les ouvriers ont découvert, ou mis au point, tout un outillage, des organes, des méthodes de travail, des modes de décision, qui n'étaient pas forcément prévus à l'origine et qui ont joué un rôle clé. Et là, je vais citer des exemples qui vous paraîtront banals, mais en braquant le projecteur sur des aspects parfois peu connus. Premier outil, le multilinguisme. Le Conseil et le Parlement ne peuvent pas juridiquement décider tant qu'un texte n'est pas disponible dans les 24 langues. Et ils ne peuvent même pas en débattre sans traduction simultanée. Umberto Eco aimait à dire « la langue de l'Europe, c'est la traduction ». En effet, elle donne son ancre au navire européen. C'est la seule organisation internationale pratiquant ainsi, même si la langue de travail, qu'on appelle l'anglais, et qui est en fait un Américain 24 fois torturé, tend à devenir le véhicule commun. Deuxième outil, là aussi d'apparence banale, mais très important, les présidences tournantes du Conseil des ministres. C'est une simple coutume symbolique dans beaucoup d'organisations internationales, mais ici, cette pratique a un effet pédagogique très important, notamment pour les nouveaux membres du club. Parce que ça veut dire que pendant 6 mois, toute l'élite politique et administrative du pays est mobilisée pour présider toutes les réunions à tous les niveaux de l'Union européenne et donc pour piloter l'Union sous le drapeau commun de l'Union. Chaque pays est amené à s'approprier successivement le flambeau de l'Europe. Au Parlement européen, non plus entre les pays mais entre les partis politiques, le même effet d'appropriation est obtenu par la répartition équilibrée des grandes fonctions qui permet donc l'appropriation du résultat des travaux par les forces politiques elles-mêmes. Il faudrait donner à titre posthume le prix Nobel de la paix à l'obscur juriste et mathématicien flamand Victor Donck. Les principales fonctions parlementaires, les présidences de commissions, le bureau des commissions, les rapporteurs, etc., sont distribuées selon la loi Donck, unanimement acceptée. Et à partir de là, la fierté collective et même nationale a pu devenir un carburant puissant de l'Union. C'est une dimension historique qui n'a pas été assez soulignée. Le paradoxe fera sourire. L'Europe a réussi quand elle est devenue la gloire de ses nations. À l'époque où l'Allemagne était réduite à sa partie ouest, la communauté économique européenne offrait à la France, on s'en souvient, la perspective d'un leadership européen de fait qui se substituait en partie aux frustrations de la décolonisation. De son côté, en devenant le meilleur élève de la classe, l'Allemagne a trouvé l'occasion de se prouver d'abord à elle-même qu'elle pouvait devenir une démocratie modèle tout en retrouvant sa compétitivité inégalée. Les Italiens y virent le rêve de l'État idéal que la péninsule n'avait jamais connu et dont la capitale restait judicieusement lointaine. En rejoignant en 1999 la première division, en quelque sorte, des clubs européens, celle des pays membres de l'euro, l'orgueilleuse Espagne effaça d'un coup deux siècles de décadence extérieure et de tragédie interne. Les petits pays que la géographie condamnait au face-à-face avec un trop grand voisin, qui avait tendance à en abuser, l'Irlande, le Danemark, le Portugal, les Pays-Baltes, furent rassurés par l'élargissement du cercle de famille. Du haut de Bruxelles, la minuscule Chypre, l'île d'Aphrodite, a pu faire un pied de nez à l'ogre turc. Enfin, chacune des anciennes démocraties populaires s'est fait gloire de son retour à l'Europe, pour reprendre la formule que Milan Kundera évoquait lorsqu'il parlait de l'Occident kidnappé. Et au passage, nous remarquons qu'une exception saute tout de suite aux yeux. Aussi inconsolable que nous de la perte de son empire colonial, le Royaume-Uni a préféré mettre sa fierté dans sa relation spéciale avec la première puissance mondiale, pas dans son rôle dans la construction européenne. Puis, plus récemment, elle a mis sa fierté dans le projet anachronique ou uchronique de Global Britain. Certes, l'effet gloire des nations n'a qu'un temps, mais il a joué un rôle important que l'on a tendance à sous-estimer. Autre exemple d'outil découvert au passage, les procédures qui fâchent ou qui réconcilie. Par exemple, je vais peut-être vous surprendre, la première fonction de la création d'un Parlement européen, c'est naturellement d'apporter un complément démocratique au système de décision. Mais le Parlement joue aussi un autre rôle, méconnu, mais tout aussi important. Si toutes les décisions sont prises par un Conseil des ministres, si on reste à l'unanimité et qu'on est plus de 12, on est constamment paralysé. Donc, au-delà de 12, on passe à la majorité ou à la majorité qualifiée. Mais si la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou même un pays moins important perd 2 ou 3 votes de suite, à ce moment-là, le pays en question est humilié, c'est insupportable. En revanche, si la prise de décision exige une position conforme, d'une part, du Conseil des ministres à la majorité, où sont représentés les gouvernements, une personne par pays. Mais d'autre part, un Parlement dans lequel de nombreux parlementaires représentent chaque pays, les parlementaires du parti au pouvoir, les parlementaires des partis d'opposition, et dans lequel l'habitude s'est prise, année après année, de prendre en compte non seulement les intérêts nationaux, mais aussi l'intérêt commun européen et les positions politiques de droite, de gauche, centristes, écologistes, etc. Alors à ce moment-là, on peut parler de gagnant-gagnant. Le vote du Parlement européen dénationalise le résultat final. Il peut être accepté, en tout cas considéré comme légitime, même si on fait la grimace sur le contenu, par l'ensemble des pays et par l'ensemble des partis politiques. Au passage, relevons un autre trait qui est incompris en France, que j'appelle le paradoxe du nombre, et qui voudrait me rappeler l'évidence du nombre, mais c'est une évidence qu'on oublie. Il est plus facile d'obtenir une décision avec un nombre très élevé de participants décidant à la majorité qu'avec un petit nombre de participants décidant à l'unanimité. Le nombre est devenu, en fait, gage d'efficacité. C'est parce qu'on est plus de 12 qu'on peut décider. Certes, j'en parlais tout récemment avec d'éminents collaborateurs de la présidence de la République. Certes, convient-on, mais en même temps, plus on est nombreux, plus la France est diluée. C'est là que notre culture nationale a du mal à comprendre la gouvernance européenne. Arithmétiquement, bien sûr, l'entrée de l'Espagne ou de la Pologne ont relativement affaibli le vote français, demain celle de l'Ukraine, bien sûr. Mais politiquement, tout dépend de l'habileté des négociateurs. Rien n'est acquis d'avance. La diplomatie française, à quelques exceptions remarquables, toutes présentes dans cette salle, répugne à s'abaisser, à négocier avec des petits pays. Mais dans ce gagnant-gagnant européen, le plus gagnant, c'est celui qui fédère autour de lui la plus grande coalition d'intérêts. Ce qui exige que l'on prenne le temps d'écouter chacun pour prendre en compte ses préoccupations, même si, et même surtout si, elles nous paraissent secondaires. Les Anglais savaient faire cela admirablement quand ils avaient le bonheur d'être parmi nous. Non seulement le Foreign Office n'avait pas certaines de nos préventions arrogantes, mais 100 ans d'expérience parlementaire de plus que nous faisaient de nos collègues britanniques des eurodéputés bien plus efficaces que nous à Strasbourg. Relevons ici à nouveau la différence spectaculaire de la gouvernance de l'Union avec le modèle politique français. Horizontalité contre verticalité. D'un côté, un paraphélisien déclenchant la formidable machinerie exécutoire de l'administration nationale. De l'autre, la recherche permanente d'alliés dans tous les pays, dans tous les partis, pour emporter des majorités décisoires, aussi bien entre ministres qu'entre parlementaires. Et pour essi morbe. Autre outil spécifique, l'art européen de la négociation. Naturellement, il y a des principes applicables à toutes les négociations qui sont connus depuis longtemps. Il y a ici des diplomates éminents, je n'insiste pas. J'en évoquerai simplement deux. La formule du trilogue, qui est l'équivalent européen de nos commissions mixtes paritaires, parlementaires, mais avec un organe chargé de médiation permanente, qui est la Commission européenne. Et contrairement à toutes les prévisions que nous faisions, au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, plus de 90% des lois européennes sont adoptées aujourd'hui en une seule lecture. D'autre part, la méthode dite du confessionnal, à laquelle le président de séance peut soumettre chacun des membres du Conseil, Conseil des ministres ou Conseil européen. En 2014, elle a permis au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, de faire adopter le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire la répartition de 1 000 milliards d'euros pour les 7 ans à venir, à l'unanimité du Conseil européen, sans procéder à un seul vote en séance plénière, ni même à un seul débat. Et autre outil, ou autre découverte, trouvée en cours du voyage, à propos du cadre financier pluriannuel, je mentionnerai la créativité juridique, parfois poussée jusqu'à la fiction. Ainsi, ce cadre financier pluriannuel a été adopté en 1987 à l'initiative de Jacques Delors. Il s'agit d'un contrat signé par le Parlement, le Conseil et la Commission, par lequel ces trois institutions décidaient de s'extraire carrément du traité en matière budgétaire pour une période de 7 ans. Ce gentleman agreement était la transposition dans le domaine du droit de la magie du chat de Schrödinger, cher à la physique quantique, à la fois mort et vif, obligatoire et inexistant. Il a servi de base aux finances de l'Union pendant 20 ans avant d'être introduit dans les traités. Donc le budget européen a été hors droit pendant 20 ans. Autre exemple, au tout début de la pandémie, il y a 3 ans maintenant, un premier emprunt européen de 100 milliards d'euros, baptisé de l'acronyme SURE, ou SURE en anglais, a été lancé avec comme seule garantie les prévisions de marge budgétaire future évaluées dans le même cadre financier pluriannuel. Ces garanties étaient en fait d'hypothétiques reliquats comptables courant jusqu'en 2027, dépourvus de toute base économique et de toute nature juridique. Pris par l'urgence, les dirigeants ont approuvé sans lire, et les marchés financiers n'ont rien compris, mais ils y ont cru. Ce qui est l'essentiel. La finance, c'est l'esprit de finesse plus que l'esprit de géométrie. Ce qui a fait dire à un haut fonctionnaire de la Commission, nous les Européens, nous sommes capables de bureaucratiser les problèmes les plus inflammables. Une fois les flammes étouffées, le problème trouve sa solution naturelle. Autre outil, l'article 50 du traité, qui est le droit au divorce. Le Brexit a été la preuve des vertus du mariage de raison. Le fait qu'un pays membre peut quitter la famille à tout moment sans donner le motif garantit l'intégrité de la souveraineté nationale. Moyennant quoi, le mot de souveraineté n'apparaît dans aucun des traités européens, ni d'ailleurs dans la Constitution française en ce qui concerne l'Europe. Autre exemple, le financement du budget. J'ai parlé du cadre pluriannuel, et là, c'est un exemple où, malheureusement, la technique pacifiante a été abandonnée au profit d'un système plus conflictuel. C'est un domaine où nous avons fait des reculs. Au départ, le principe fixé par les traités et qui a été appliqué pendant les 15 premières années, c'était l'Union finance ses dépenses entièrement par des ressources propres, formule courtoise pour dire des impôts européens. En fait, avec le temps, le système a vieilli, n'a pas été modernisé, et aujourd'hui, 80% des ressources du budget européen, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis les 20 dernières années, sont financées par des contributions nationales, proportionnelles au PIB des États membres. Conséquence inéluctable, chaque fois que l'on parle gros sous à Bruxelles, chaque ministre des Finances ou chaque chef de gouvernement calcule le, entre guillemets, juste retour de sa contribution pour ses compatriotes, c'est-à-dire chaque fois qu'on parle finance, il y a 27 Mesdames Thatcher autour de la table. C'est un recul des procédures tendant à raccommoder, à pacifier, à trouver des accords faciles. La gouvernance de la paix est ici en recul. Enfin, je citerai un dernier outil qui est très méconnu et qui est essentiel, et que j'appelle le 56e article du traité, qui, comme on le sait, n'en comporte que 55. Le passé reste à la porte des institutions européennes. Spontanément, en entrant au Parlement européen ou la Commission européenne, on s'abstient de parler du passé. Différence majeure avec toutes nos politiques nationales, où on se jette à la figure les grands symboles historiques. Pourquoi cette règle non écrite et non dite ? Tout simplement parce que le passé ne dépend plus de nous et que tout ce qui peut nous diviser y figure, alors qu'il ne dépend que de nous de faire que tout notre avenir nous rassemble. Nous laissons l'histoire aux historiens. Cela ne veut pas dire qu'on l'oublie, car si l'histoire n'est pas connue, elle bégaye. Mais entre les responsables, ceux qui prennent les décisions, pardonnez-moi du jeu de mots, si l'histoire n'est pas tue, elle peut tuer. Et donc c'est ainsi que grâce aux trois volets du projet, grâce à cet outillage de la paix, nous sommes arrivés à la paix européenne, une Pax Europeana, qui n'a guère de précédent historique, puisque depuis maintenant 70 ans, nos pays non seulement sont en paix au sein de l'Union européenne, mais sont réconciliés profondément et que plus aucun n'envisage de se livrer à une confrontation violente avec ses voisins. C'est le miracle de la réconciliation des paix et des cœurs qui n'a été possible historiquement dans le monde qu'en Europe et grâce à la construction européenne et naturellement dans les conditions très particulières mondiales de la guerre froide et de ce qui a suivi depuis 1990. Cela étant, et après avoir tressé des couronnes au savoir-faire européen de la paix, il ne faut pas cacher que ce modèle doit être adapté considérablement pour faire face au temps d'aujourd'hui, je prendrai une comparaison navale, au 21e rugissant, qui est le siècle dans lequel nous vivons. En effet, cette boîte à outils comporte quand même de graves imperfections qui doivent être corrigées. D'abord, remarquons les limites du cercle vertueux de l'engrenage de Jean Monnet. Certes, l'espace unique des quatre libertés a conduit irrésistiblement à l'union monétaire, mais en revanche, au grand dépit de leurs promoteurs respectifs, dont certains d'entre nous faisaient partie, l'union économique n'a pas conduit automatiquement à l'union politique. Plus étonnant et franchement décevant, l'union monétaire n'a même pas conduit à l'union bancaire, ni à l'union financière, ni à l'union fiscale. Et enfin, encore plus inquiétant, la réconciliation des peuples, qui est incontestable, ne suffit pas à persuader les dirigeants de s'engager dans une politique étrangère commune. Elle ne suffit pas non plus à éradiquer chez nous toutes les formes de haine au niveau des citoyens. Et là, immense question pour nous tous. Le populisme contemporain est-il une mutation du virus nationaliste des années 30 ou relève-t-il d'une autre pathologie et d'une thérapeutique inédite ? Si les haines qu'il génère contre l'autre, l'autre avec un A majuscule, ne ciblent pas, ou pas encore, le pays voisin, mais cible plutôt l'immigré, l'étranger, le musulman, le rom, etc. Y a-t-il une sorte de barrière des espèces qui nous protégerait contre le retour à la haine réciproque des nations ? Philosophes, sociologues, anthropologues, historiens sont très attendus sur le sujet. Moi, je n'ai pas la réponse. Deuxième limitation, deuxième réserve, attention, le droit trop longtemps exposé au mépris rouille, comme le fer exposé à l'eau de mer. La sanction du non-respect des règles de l'Union est un sujet mal résolu. La question est plutôt bien traitée, à mon sens, pour le droit de la concurrence. La création du procureur européen est un progrès pour le contrôle de la gestion des fonds communautaires, mais les atteintes que l'on connaît depuis quelques années aux valeurs fondamentales sapent les bases de l'édifice. En la matière, on verra si la conditionnalité financière qui vient d'être mise en place opère mieux que l'article 7 du traité. Jusqu'à présent, cette procédure est restée inopérante. De même, l'exemple des avatars, avatars au sens du sanskrit, du pacte de stabilité et de croissance, que M. le Président connaît bien, confirme que tout ce qui relève du jugement par les pairs signifie concrètement l'absence de sanctions. Il faudra en tenir compte dans la refondation de ce pacte qui est heureusement en cours. Mais il est clair qu'un système reposant sur le droit ne peut pas laisser le droit rouiller. Troisième limite, si l'Union est bâtie sur le droit, elle ne l'est pas encore sur la démocratie. Les Français auront plus de mal à en prendre conscience, car notre ADN politique ne comprend plus que le régime présidentiel. Mais nos partenaires recourent tous au régime parlementaire, sauf la petite Chypre. Or, le traité de Lisbonne institue, pour diriger l'Union, un régime de type parlementaire dans lequel le numéro un de l'exécutif, le président ou la présidente de la commission, est élu par une majorité ou une coalition parlementaire sur proposition du Conseil européen, agissant comme une sorte de chef de l'État collectif. En 2019, le Conseil européen en a conclu qu'il disposait d'un choix discrétionnaire de la personnalité à présenter au Parlement. C'était très exactement l'interprétation que Charles X faisait de la charte octroyée en 1829. Issue de ce choix, Madame von der Leyen a révélé des qualités hors du commun, et ce que je vais dire ne critique en rien sa personne et sa politique, mais aucun citoyen européen n'a voté pour elle, aucun ne se sent représenté par elle, et sa légitimité politique ne dépasse pas celle d'un haut fonctionnaire international. Les prochaines élections européennes ont lieu l'année prochaine. Peut-on espérer convaincre d'ici là les dirigeants français, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de cette lecture, que l'Europe est maintenant assez mûre pour passer au moins à la monarchie de Juillet. Tout aussi grave est le déficit démocratique congénital dont souffre le Parlement européen. Chaque pays reste maître de son système électoral pour désigner ses eurodéputés. La France a choisi de se considérer comme une circonscription unique, élisant ses 79 eurodéputés sur des listes bloquées établies par les partis politiques dans la plus grande obscurité. Il s'agit moins d'une élection que de nomination laissée au bon plaisir des chefs de parti. Pour employer un langage courtois, le lien féodal y tient plus de place que l'engagement européen. Aucun parti politique ne dénonce le système puisque tous y trouvent avantage. Je regrette qu'aucune grande voix ni aucune juridiction européenne n'ait encore dénoncé ce qui est une parodie de démocratie. D'où le désintérêt profond des médias et le sentiment d'éloignement des citoyens et l'image, hélas justifiée, dans leur esprit, d'une bureaucratie anonyme qui est à Bruxelles, bureaucratie toutes institutions confondues. Quatrième défaut, contrepartie de la culture d'une organisation tout entière dédiée au droit, je serais tenté de dire asservie au droit, en souriant, contrepartie, l'idéalisation puérile des relations internationales. Nous croyons à Bruxelles que le reste du genre humain suit nos débats, partage notre vision du monde et du bien, nos préoccupations, nos objectifs, et que la surenchère de vertu de notre part va convaincre les cinq continents éblouis par le bien fondé de cette vision. C'est l'illusion des pacifistes, et celle de la gentille Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc du réchauffement climatique. Hélas, on le sait dans cette académie, de toutes les maladies, la vertu est de loin la moins contagieuse. Dans son journal, Marc Aurèle le constatait avec l'orgueil du philosophe, mais sans doute aussi l'amertume de l'empereur, dans ce raccourci magnifique, « Tu demandes ce que tu peux attendre de la vertu, elle seule. » Ce que le cinéaste Woody Allen a traduit dans un mode plus plaisant, vous vous souvenez que le personnage angoissé qu'il incarne dans Honey Hole écoute la prophétie d'Isaïe que lui récite un rabbin optimiste sur la suite de l'aventure humaine. Je cite, « Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Le loup dormira avec l'agneau. » Certes, observe Woody, mais l'agneau passera une mauvaise nuit. La question que les Européens doivent se poser depuis le 24 février 2022, c'est « Dans un monde de loups, quel est l'avenir des agneaux ? Seront-ils capables d'adapter la gouvernance d'un temps de paix, d'une paix vécue comme perpétuelle, au temps de la guerre grondant de nouveau à nos portes ?» Pour donner un seul exemple, la conduite d'une politique étrangère ne se décide ni certes à l'unanimité des parties prenantes, mais ni à la majorité non plus. Cela ne relève qu'exceptionnellement du vote. Et donc, le processus de décision en la matière reste entièrement à inventer. Il en va de même pour la mobilisation de troupes au niveau européen. Si la mise en œuvre de ce qu'on appellerait une force européenne d'action rapide exige un vote préalable de plusieurs parlements nationaux, les forces hostiles ne seront retardées dans leur élan que par leurs propres éclats de rire. Enfin, la plus grande lacune de la gouvernance européenne de la paix, c'est que ses caractères et ses mérites restent inconnus, même de ses propres bénéficiaires. Et c'est ici que l'on rencontre le problème posé par l'enseignement de l'histoire à l'école, par notre rapport au passé de manière générale, et en particulier l'origine, le cœur de ce rapport, qui est ce qu'on apprend sur les bancs de l'école, en primaire et en secondaire. Dans tous nos pays, le choix de l'histoire comme discipline scolaire obligatoire a coïncidé avec l'avènement de l'État-nation. Alors à l'époque, l'objectif était simple. Il s'agissait de former de jeunes patriotes, fiers d'une histoire nimbée de légendes héroïques et prêts à donner leur sang pour la terre de leurs ancêtres. Ni la véracité des faits, ni la nuance des jugements n'étaient des contraintes incontournables. Mais voilà, les anciens ennemis héréditaires transformé en démocrate, ami et même pacifiste. Enseigner le passé pour réconcilier les hommes se révèle bien plus difficile que les préparer à se haïr de nouveau. Comment trouver le juste équilibre entre la formation de patriotes, qui reste nécessaire, et la formation de citoyens ? S'agit-il de citoyens de la démocratie nationale, de citoyens de l'Europe ou de citoyens du monde ? Dans le récit du passé, quelle part respective accorder à la fierté des heures lumineuses et au remords de la face sombre ? Au-delà du sec rappel des faits, il faut évidemment inviter l'élève au jugement, ce qui comporte une dimension morale. Mais faut-il alors recourir aux standards de l'époque, à ce que les historiens appellent la contextualisation, ou bien à nos idéaux contemporains qui sont d'une exigence quasi illimitée ? Puisqu'implicitement l'histoire est un passé enseigné aujourd'hui pour préparer un futur meilleur, mais en fait, quel passé pour le futur de qui est meilleur en quoi ? J'ai longtemps cru que la solution était dans l'élaboration d'un récit européen commun, conçu en polyphonie avec des auteurs de tous les pays, présentant le passé de notre continent comme 2000 ans de guerre civile. Et en effet, c'est un exercice tout à fait nécessaire et qui a été fait de manière souvent remarquable, y compris par des personnalités présentes ici, dans le cadre d'initiatives d'auteurs ou éditoriales. Mais c'était une fausse bonne idée lorsqu'on parle de manuel scolaire. Une histoire pieuse officielle deviendrait immédiatement la cible de tous les ministères d'éducation, de tous les eurosceptiques, bien entendu, et de tous les historiens autres que ses propres auteurs. Paul Ricoeur évoque un narratif commun décrivant l'identité européenne. Ce narratif commun ne peut pas être un récit unique, c'est une symphonie de récits qu'il nous appartient d'accorder. Je prends un seul exemple. Le 11 novembre 1918, je prends cet exemple parce que c'est le sujet qui a donné le plus de fil à retordre aux auteurs du manuel commun célèbre franco-allemand. Dans l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, la France célèbre sa victoire la plus glorieuse et la plus douloureuse. À Londres, on porte le symbole du myosotis, le forget-me-not, pour rappeler que 700 000 soldats anglais sont morts dans nos tranchées pour la cause de la démocratie. L'Allemagne se souvient de ce que Marc Bloch aurait déjà pu qualifier, anachronisme, d'étrange défaite, puisqu'à l'époque, bien que submergée par le nombre, la Reichswehr occupait encore la Belgique et une partie du territoire français, alors qu'il n'y avait pas un seul poilu sur le sol allemand de l'autre côté du Rhin. Ce jour-là, les Polonais fêtent leur indépendance retrouvée. Alors que pays vaincu, la Hongrie est restée inconsolable du traité de Trianon qui a suivi. Pour la raison contraire, la Roumanie célèbre à cette occasion, quelques jours après, le 1er décembre, son élargissement à la Transylvanie, une région qu'elle s'est disputée avec la Hongrie pendant des siècles. Quant aux Autrichiens débonnaires, ils se consolent de la disparition de l'empire séculaire des Habsbourg, en ayant fait du 11 novembre à 11h11 le lancement de la préparation du carnaval annuel. Alors, devant ce panorama, nous ne pouvons pas inventer une même mémoire des grandes dates de notre histoire commune. Par définition, quand il y a eu guerre et paix, il y a des vainqueurs, des vaincus, le souvenir n'est pas le même. Mais il faut s'assurer que chacun est ouvert au récit des autres, et que chacun de ces récits tend à renforcer la réconciliation au lieu de faire renaître des fantômes hideux. Et c'est dans cet esprit que nous avons créé, il y a maintenant 3 ans, auprès du Conseil de l'Europe, non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe à Strasbourg, l'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire, qui est chargé de faire la photo de l'état des lieux et qui, à la fin de cette année, publiera son premier rapport général. Voilà ce qu'on enseigne à l'école primaire, à l'école secondaire, comment sont faits les programmes, qui les décide, comment sont recrutés les professeurs, quel est le statut des manuels dans les pays européens. Les premières indications que nous avons à ce jour ne nous conduisent pas à un optimisme spontané. On constate que dans de nombreux pays européens, on est revenu à une sorte d'ethnocentrisme nombriliste, sans trop faire la différence entre récit national et roman nationaliste. On constate aussi ce qui est plus surprenant, mais qui n'est pas rassurant, que dans beaucoup de pays, notamment la totalité des pays d'Europe du Nord et toute la Scandinavie, l'histoire n'est plus enseignée en tant que telle. Et que le débat empoisonné qui nous vient ces derniers temps des États-Unis sur le woke et la cancel culture a eu lieu aux Pays-Bas et en Suède il y a déjà 40 ans et a été tranché dans le sens de la cancel culture, c'est-à-dire les Européens seraient les seuls responsables de tous les maux de l'humanité, esclavagisme, colonialisme, génocide, etc., et qu'il vaut mieux ne pas charger la mémoire de nos enfants ou leurs épaules du poids de cette immense culpabilité. Ce qui veut dire que si l'on n'y prend pas garde, la jeune génération européenne risque de se partager entre un tiers d'amnésiques, un tiers de nostalgiques d'un futur antérieur et un tiers de pénitents obsessionnels d'un passé recomposé. Trois catégories n'ayant en commun qu'une fierté ou une bonne conscience, également imbécile. Pardonnez-moi pour ce mot. Il est grand temps d'oser regarder en face notre passé commun, sans nier nos mémoires nationales douloureuses, bien au contraire, mais en les réconciliant et en soulignant l'originalité de l'aventure européenne avec ses ombres indélébiles et ses immortelles lumières. Je vous remercie.
Merci, cher Alain Lamassoure, pour ce remarquable exposé, je dois dire très profondément original, très vigoureux, très européen, mais sans aucune complaisance, véhément et ironique. C'était un vrai bonheur que de vous écouter, vraiment, et d'avoir, grâce à vous, un morceau d'histoire. Je ne pouvais pas ne pas penser moi-même à ma propre expérience à la Banque Centrale Européenne, où, entrant dans une zone euro de 12 pays, je l'ai quitté avec une zone euro de 17 pays, pouvant mesurer à quel point, en Europe, on est dans de l'histoire qui marche en avant, comme vous l'avez admirablement suggéré. Malte, Chypre, la Slovénie, la Slovaquie, l'Estonie sont entrés en l'espace simplement d'un mandat de 8 ans, dont 3 pays anciennement communistes, et qui sont entrés au moment où nous avions la crise des subprimes, puis la crise de Lehman Brothers, qui montre accessoirement une résilience de l'Europe, de l'Union européenne, de la zone euro en l'occurrence, vraiment remarquable. J'ai été aussi très frappé par votre conclusion, où là vous vous référez au Conseil de l'Europe et plus à l'Union européenne. Et je ne doute pas qu'il puisse y avoir de nombreuses questions. Ceci n'est pas une question, c'est une remarque. Mais votre dernière partie ou votre conclusion était particulièrement intéressante. Évidemment, ce qui me brûle les lèvres, c'est de vous interroger sur la Russie et sur la Turquie et sur l'Ukraine, qui sont les unes et les autres, sauf erreur de ma part, ou qui étaient, en tout cas pour deux d'entre elles sur les trois, membres du Conseil de l'Europe, participant au Conseil de l'Europe.